pour ça, il y a deux universités d'Arcos. Merci Corinne.
Merci Martin. On est très heureuse effectivement de représenter ici l'ensemble de l'équipe du service commun de la documentation de l'Université d'Arcois, qui est motivée et mobilisée depuis quelques années pour la mise en place donc du portail documentaire de l'université. Il faut savoir effectivement que ce projet s'inscrit sur le long terme, puisque les premières réflexions ont eu lieu en 1998 et que l'ouverture au public a eu lieu le 5 avril 2006. Donc en réalité, il y a tout juste un mois. Donc on espère que ce qu'on souhaite vous montrer va fonctionner, mais ce n'est pas toujours sûr. Hein. Mais bon, si, ça va marcher. Tiens. Donc, dans un premier temps, je voulais vous présenter un petit peu le contexte dans lequel s'est inscrit ce projet de portail documentaire. Parce que, bien évidemment, un portail documentaire ne s'inscrit jamais dans un territoire vierge. Et l'Université d'Arcois a une histoire, et sa bibliothèque également, qui explique aussi la structuration des services qu'on rend aux usagers. Donc notre université est effectivement une université jeune. Elle est issue donc d'antennes délocalisées des universités de Lille au départ, donc Lille 1 pour les sciences et Lille 3 pour les sciences humaines et sociales. Et elle est devenue université de plein exercice en octobre 1990. Donc elle a fêté ses 10 ans, elle va fêter bientôt ses 15 ans. Et comme vous voyez, effectivement, c'est encore une université en construction. Donc, au départ, l'université était constituée de 3 sites. Donc, le site d'Arras pour les lettres et les sciences humaines, le site de Béthune pour les sciences économiques et les sciences appliquées, et le site de Lens pour les sciences dures. Et on s'est ensuite déployé en 1996 sur le site de Douai pour les sciences juridiques et politiques, et sur le site de Liévin pour les STAPS, donc les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc effectivement, l'université est totalement multidisciplinaire, il lui manque uniquement une faculté de médecine pour avoir le panel complet des formations. Donc aujourd'hui, l'université compte à peu près 12 000 étudiants, donc ils sont répartis sur ces 5 sites, et également donc, dans 2 IUT, puisqu'il y a également un IUT secondaire et un IUT tertiaire. Donc dès sa création, l'université a constitué son service commun de la documentation, et au fur et à mesure de la création des sites disciplinaires, donc une bibliothèque a été créée sur chacun des sites, en sachant que l'originalité, en tout cas ce qui a été une spécificité par rapport à des universités plus anciennes, ça a été le choix d'emblée de refuser toute mise en place de bibliothèque d'USR ou de bibliothèque de laboratoire ou de centre de recherche. Donc toute la documentation de l'université se trouve dans les bibliothèques universitaires. Donc effectivement, la pression qui se situe finalement sur les épaules de la bibliothèque universitaire ou du STD, c'est de tenir toujours un petit peu en équilibre les deux types de documentation, donc la documentation qui correspond aux besoins de l'enseignement et de la formation, et puis la documentation qui correspond aux besoins de recherche. Donc c'est une chance hein, d'une certaine manière, puisque beaucoup de nos collègues souffrent parfois dans les STD fléchissent à essayer de rassembler l'ensemble de la documentation de l'université. Pour nous, effectivement, c'est un petit peu plus simple, mais en même temps, ça met également donc, une pression forte. Le deuxième élément donc, de contexte donc, qui nous a amené à réfléchir et à mettre en œuvre un portail documentaire, c'est l'émergence de l'université numérique régionale. Donc effectivement, depuis 10 ans, les établissements du Nord-Pas-de-Calais ont mutualisé le réseau et la circulation de l'information. Et tout cela s'est intensifié donc, depuis 4 ans avec la mise en place donc, une université numérique régionale qui est fondée sur l'environnement numérique de travail qui est ESUP Portail, qui a été développé par l'université de Valenciennes et qui effectivement donc, est désormais présente dans l'ensemble des universités de la région, donc en l'occurrence également à l'université d'Artois. Donc il y a 5 volets qui sont concernés par l'université numérique régionale et qui, comme vous allez le voir, concerne tous à un degré divers la bibliothèque et la documentation. Donc c'est le déploiement de l'espace numérique de travail et sous portail, de façon à ce que l'usager puisse accéder à l'information à partir de son profil. Donc il y a des canaux dédiés, effectivement, qui ont été mis en place pour la diffusion de l'information. Le volet 2, c'est l'équipement en poste informatique et multimédia dans des salles en accès libre et en particulier au sein des bibliothèques. Le troisième volet, c'est l'élaboration de solutions nouvelles qui permettent de favoriser la mobilité étudiante. Donc c'est essentiellement le réseau Wi-Fi qui a été installé dans les universités et là aussi en particulier dans les bibliothèques. Ça n'est pas encore totalement le cas à l'université d'Artois, mais on nous le promet cette année. Et le prêt d'ordinateurs portables, le plan MIP, qui permet effectivement de doter les étudiants, de leur prêter en tout cas des ordinateurs portables. Le volet numéro 4, c'est le développement d'un portail régional. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le contexte dans lequel on s'inscrit, donc qui s'adosse complètement au contenu de l'ENT et qui a pour l'instant comme priorité numéro 1 la formation en ligne. Donc le développement de toute l'activité de e-learning. Et le volet numéro 5, c'est la mutualisation des actions de formation. Donc en gros, le fait que tous les étudiants de la région et d'ailleurs puissent connaître l'ensemble des maquettes des enseignements qui ont lieu dans les universités et construire finalement leur parcours grâce à cela. Alors les étapes qui nous ont amené effectivement ensuite à mettre en œuvre notre portail documentaire, je vous ai dit que nous avions été créés en 1992, et c'est en 1996 qu'on a informatisé la bibliothèque universitaire. Évidemment, c'était seulement il y a 10 ans. Avant, on était sur des fiches papier. Donc en 1996, on a implanté le système intégré de gestion de bibliothèque APSIS. En 1998, on a eu la possibilité de proposer un OPAC à nos étudiants et à nos usagers, qui était au départ un OPAC Windows, donc uniquement sur les postes de la bibliothèque, et on a pu le mettre en ligne à partir de l'année 2000. En 2002, on a généralisé l'OPAC Web pour l'ensemble du réseau, et en 2003, on a pu mettre en place des services de renseignement multimédia que l'on a appelé MediaDoc. Évidemment, je vous donne toutes ces dates pour vous montrer que tout ça s'inscrit dans une démarche de changement permanente. Ce qui veut dire qu'il y a une mobilisation des équipes sur cette démarche-là qui ne s'est pas ralentie depuis 1996. Et donc nous sommes à l'heure actuelle dans la cinquième étape de cette évolution qui est la mise en place de notre système d'information documentaire qui va être complètement intégré au système d'information de l'université. Donc comme je vous disais, on a commencé à réfléchir à la mise en place d'un système d'information en 1998. En 2000-2002, il y a eu une première étude qui a été mise en place et avec des axes à l'époque qui étaient, liés à la situation technique de l'époque, c'est-à-dire la mise en place d'un réseau de CD-ROM et également des postes de consultation dédiés dans les sites de la bibliothèque. On a lancé un appel d'offres qui a en réalité malheureusement été clos par un marché infructueux puisque les offres que nous avons reçues n'étaient pas conformes aux attentes qui avaient été exprimées dans le CCPP. En 2002, désespoir, le projet s'arrête, marché infructueux et l'équipe se démobilise un petit peu. Heureusement, on a pu effectivement reprendre la démarche dès l'année 2003 avec des objectifs totalement différents puisque on a essayé de faire finalement d'un échec une chance puisque les paramètres techniques avaient beaucoup évolué entre 1998-2000 et 2003-2004. Donc on est parti sur la mise en place d'un système d'information documentaire qui serait constitué de deux grands volets, un système de portail documentaire et un système de gestion électronique des documents. Donc le calendrier, finalement, ça a été la mise en place là aussi d'une phase d'étude avec l'aide d'un consultant, la mise en place également de l'ensemble des documents type CCTP, CCAP et un appel d'offres qui a été donc publié en juin 2004 avec donc en octobre 2004 le choix de la société Archimède pour la mise en œuvre donc de ce système d'information documentaire. Donc la réunion de lancement a eu lieu en janvier 2005 pour mettre en œuvre concrètement la démarche. Et la mise à disposition du public était prévue à l'époque pour septembre 2005. En réalité, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons mis à disposition des usagers notre outil en avril 2006. Ceci dit, c'était quand même effectivement relativement rapide, janvier 2005 à avril 2006, ça fait pas tout à fait un mois et demi. On se situe à peu près dans la norme en termes de délai pour la mise en œuvre de ce type de produit. Alors les objectifs que nous avons donc mis en exergue dans la mise en place de ce portail documentaire, donc c'était bien évidemment de proposer un guichet unique donc d'accès à l'ensemble des ressources documentaires. De disposer d'un vecteur de valorisation des ressources, donc qu'elles soient acquises par l'université ou produites par l'université. D'offrir donc des services personnalisés à l'ensemble des catégories d'utilisation. Et également donc d'intégrer toujours la documentation donc un petit peu mieux et un petit peu plus au sein des structures universitaires. Donc ça c'est le volet politique. Alors on vient de vous projeter donc la page d'accueil de notre portail documentaire. J'aurais bien aimé d'ailleurs que finalement vous vous déconnectiez pour qu'on voit la page d'accueil en elle-même. Ok, on déconnecte vous. Ok, Donc le but est de vous montrer effectivement donc de passer de l'idéal qu'on s'est fixé en termes d'objectifs à la réalité donc de notre portail documentaire. Donc le principe qui fonde le portail documentaire. Donc c'est l'écran d'accueil unique, donc l'interface d'accès unique qui permet l'accès à l'ensemble des ressources documentaires de l'université. Donc un écran d'accueil qui permet d'interroger à la fois notre catalogue, mais aussi nos périodiques électroniques et également donc les documents qui ont été numérisés, donc avec l'implantation d'un moteur de recherche multibase qui permet donc la recherche fédérée. Donc l'infrastructure technique, c'est bien donc trois briques logicielles, un portail documentaire, un système de gestion électronique de documents et un système donc de gestion également des impressions en salle de façon à pouvoir ça c'est donc l'écran d'accueil effectivement de notre portail documentaire. Donc vous avez ce qui peut-être n'apparaît pas comme étant un élément très compliqué à mettre en œuvre mais qui nous a demandé beaucoup de temps, la partie graphique qui en fait vous fait apparaître les cinq implantations donc de la bibliothèque universitaire. Donc on les voit peut-être pas très bien sur l'écran. Vous
pouvez voir. C'est Béthune, je pense.
Ouais. Non, Lens. C'est bon, c'est Douai là.
Oui.
Douai.
Et la Béthune et Lens.
Lens et Liévin. Donc ça, c'est effectivement l'écran sur lequel l'utilisateur lambda arrive lorsqu'il se connecte à notre portail documentaire. Et donc, ça va lui permettre ensuite de se connecter soit en mode identifié, puisque le portail documentaire est adossé à l'annuaire LDAP de l'université. Donc l'authentification est liée à l'annuaire ESAP, donc on va peut-être le faire. Donc la preuve en direct. Je vais recevoir mon passe, votre espace. Donc là, la personne est en train de s'identifier. Donc Sylvie s'identifie en mettant donc à la fois son identifiant et son mot de passe. En gros, l'identifiant, c'est la première partie de l'email. Donc le prénom, point, nom et le mot de passe est à la discrétion de l'usager. Je ne connais pas celui de Sylvie. Donc dès le moment où elle s'est identifiée, effectivement, elle arrive donc sur une page qui lui correspond et qui est profilée par rapport donc à son statut. Donc elle est largement au-delà évidemment des règles de prêt de la bibliothèque de procurature. On n'emprunte pas 31 documents normalement, mais comme elle est dans le statut personnel de la bibliothèque, elle a quelques largesses
dont elle profite. Dont j'ai besoin.
Voilà. Donc ensuite, effectivement, vous voyez en dessous le cadre central, donc vous avez deux grandes catégories, donc mon bureau. Donc là, dans mon bureau, on va trouver l'ensemble des données personnelles et profilées, donc en fonction du statut de l'usager. Donc en gros, les statuts, c'est étudiant premier cycle, étudiant master, étudiant doctorat, enseignant-chercheur, personnel de la bibliothèque. Donc Sylvie effectivement a dans son bureau à l'heure actuelle donc des paniers de recherche qu'elle a pu effectivement constituer lors d'une session puis enregistrer pour le sauvegarder et le garder autant de temps qu'elle le souhaite. Elle a également des paniers de référence, des fichiers personnels. Alors si vous voulez les montrer, je vous laisse libre de montrer des fichiers personnels. Il n'y a rien de secret.
Non, je pense pas. je vois pas. Ah, ça arrive tout ça. Non, il ne cherche plus. Là.
Une dernière. Je vais repartir. On va faire sur mon bureau. Hein. Ok. Ah, ok. On est en phase de validation en service régulier, donc ça progresse tous les jours un peu plus et on doit décréter l'admission donc, du portail le 1er juin.
Une référence. Alors, je pense
que c'est bien. Je vais
essayer de cliquer. À moins que
j'ai une descendre la société.
Voilà. Ah, là.
Bon. Dans l'idéal, et dans la technique très bientôt, elle pourra donc effectivement accéder depuis son bureau à la fois donc à ses paniers de recherche, à ses paniers de référence. Donc la différence entre panier de recherche et panier de référence, c'est les recherches sont des recherches suivies, donc on peut effectivement enregistrer les recherches sur les sujets que l'on souhaite sauvegarder. Les paniers de référence, ce sont des références que l'on a déjà trouvées et que l'on sauvegarde sous la forme de listes signalétiques. J'essaie de cliquer sur mon bureau. Bon, ça marche. Bon. Donc effectivement, la deuxième grande catégorie...
C'est des éléments personnels de mon bureau, mais je vais voir si j'ai mis en recherche suivi encore. Apparemment, c'est pas un lien, mais dans ma recherche.
Non,
je pense que c'est bien.
Bah oui, c'est bête. Bon. En tout cas, vous voyez que c'est pas encore totalement abouti. Oui.
Dans les fichiers personnels, est-ce que c'est une. Ça donne accès à des fichiers qui ont pu être créés à l'aide de logiciels bureautiques? Ou est-ce que c'est des logiciels qui sont reliés au portail, qui sont spécifiques au portail?
Non, effectivement, les fichiers bureautiques peuvent être créés. Donc j'avais une suite bureautique qui est installée sur les postes de consultation en bibliothèque. Ou créer donc le domicile de la personne, hein, puisque toutes les actions, quelles qu'elles soient, peuvent être faites de manière complètement libre, soit sur place, soit à distance. Donc ensuite, effectivement, on peut enregistrer ces fichiers personnels quel que soit le logiciel qu'on a utilisé pour créer le fichier. Donc c'est un peu pour ça qu'on voulait vous montrer d'ailleurs les fichiers que si disait Rebecca avait mis en place, puisque c'était notamment des fichiers Word d'un côté, des paniers de référence, de manière à vous montrer qu'effectivement il y avait différents types de structures possibles pour la mise en place, donc de, on va dire, l'espace de stockage personnel qui est créé pour chaque étudiant, enfin chaque usager, et qui lui permet de garder tout ce qu'il souhaite. Hein, de, aussi, hein. Oui, je vous laissais bidouiller un petit peu. Moi, je vais vous parler un petit peu aussi de la manière dont on a prévu, effectivement, donc de proposer le portail documentaire aux autres services de l'université. Donc, il faut savoir que le portail documentaire donc, repose sur les briques logicielles que j'évoquais tout à l'heure, et que l'ensemble de la structure est prévu pour être mise à la disposition d'autres services qui voudraient constituer des co-portails ou des portails métiers en utilisant exactement les mêmes outils. Donc ils ont deux solutions en réalité. Quand je parle des services concernés, c'est essentiellement Artois Presse Université, donc notre service de presse universitaire, le service de la vie culturelle, le SIO-SIP, donc service d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle, mais aussi les centres de recherche ou la plateforme donc, de formation en ligne. Donc on a prévu deux modes de fonctionnement qui seront proposés au choix à chacun des services concernés. C'est-à-dire, le premier mode, c'est d'utiliser le portail documentaire tel qu'il existe et de venir l'alimenter donc de manière classique en quelque sorte, donc en étant référencé comme un utilisateur ayant le statut qui lui donne le droit donc de déposer un document en ligne dans le portail documentaire. Donc là, effectivement, il y a un circuit de validation des documents qui est mis en place avec différentes étapes en fonction des services. Soit il y a un comité éditorial, c'est le cas des presses universitaires, soit il y a des prescripteurs qui peuvent donner ou non l'autorisation de diffusion d'un document. Donc là, on a effectivement également au sein du portail documentaire un système simple de workflow qui permet effectivement de suivre ensuite les étapes de validation donc, dans le circuit. Soit, et ça c'est effectivement un projet que nous avons et qui devrait se mettre en place dans le contrat qui vient là en 2006-2009, proposer en réalité l'infrastructure logicielle du portail et aider donc les services de l'université à constituer leur propre portail à partir de ces briques logicielles, donc avec leur propre charte graphique, leur propre paramétrage par rapport aux priorités qu'ils peuvent donner en termes de fonctionnalités, puisque les fonctionnalités documentaires ne sont pas forcément totalement identiques aux fonctionnalités d'un portail de presse d'université ou d'un portail de plateforme de e-learning, mais en étant en quelque sorte un élément, enfin une composante pilote et en accompagnant donc ces services pour la constitution donc, de leur portail et son paramétrage. Vous avez retrouvé quelque chose?
Non, justement, je ne comprends pas.
C'est normal, c'est la fameuse malédiction, vous savez. Donc, effectivement.
Mes recherches suivies, elles apparaissent au niveau encore là, mais avec la requête apparemment d'Archimède, hein, qui n'est pas les requêtes, voir si je peux faire. Ça ne marche pas.
Ça marche pas.
Je ne sais pas pourquoi j'arrive sur ça. Bon, c'est pas très, très grave. Bon.
Donc, oui. Oui.
Entre l'issue de portail et Archimède,
alors, à l'heure actuelle, le portail documentaire est basé uniquement sur Inkipion, donc c'est la brique documentaire d'Archimède, hein, le produit de le logiciel d'Archimède. On est donc dans une première tranche du projet. La deuxième tranche du projet qui va commencer donc très rapidement, c'est l'intégration du portail documentaire dans le portail de l'université et donc dans l'université numérique régionale, avec donc effectivement l'intégration d'Inkipio avec et sous portail au sein donc de l'environnement numérique de travail. Donc le principe effectivement à ce moment-là, ça sera de développer les web services et les interconnexions avec les autres briques des sous-portails pour permettre effectivement une authentification unique avec SSO, donc passer de toutes les composantes de l'université, s'identifier uniquement au départ et pouvoir ensuite bénéficier de l'ensemble des services, et effectivement aussi avoir accès par exemple à la plateforme de formation en ligne, aux ressources de la recherche et autres. Donc là pour l'instant, ce que vous voyez, c'est uniquement la brique documentaire Archimède et le projet, c'est la tranche conditionnelle du marché, donc c'est plus qu'un projet, ça va se mettre en place effectivement, c'est l'intégration avec les supports.
J'ai réussi à retourner sur une recherche suivie que j'avais enregistrée. Donc en fait, réapparaît, peut-être certains d'entre vous ont vu que c'était une recherche qui portait sur les centres-villes. Donc en fait, on voit que quand on descend, on a quatre documents qu'on peut, comme là vous voyez en bas, pour voir la sélection, il faut d'abord, et par exemple, cliquer sur le numéro 4. Ensuite, vous faites voir la sélection, vous pouvez en cliquer plusieurs. Enfin, là, la détail de la référence, j'espère qu'on va la voir. C'est là. Ah, comment ça se fait qu'on n'a pas un tel écran? On ne peut pas avoir plus. Je
ne sais pas si ça. Après, il y a les...
Alors, là, on voit l'auteur, le titre, et puis. Je vais remonter. Donc, les vedettes Rameau.
Alors, j'ai oublié de vous préciser que parallèlement à la mise en place du portail documentaire, nous avons mené également la réinformatisation, c'est-à-dire que nous sommes passés donc de APSIS à APSISnet, qui est donc le produit de GFI Progiciel qui est full web. Donc, lorsque vous avez des résultats effectivement liés aux recherches suivies, il y a donc effectivement une interface entre le portail documentaire et APSISnet, hein, qui est notre SIGB actuel, donc, qui bénéficie du moteur de recherche en texte intégral et qui effectivement donc, nous renvoie les réponses adéquates.
Donc là, je vais retourner, vous avez pu, j'ai visionné tout doucement un peu la référence, donc apparemment, là, donc, on a eu cette sélection. Donc en fait, pour.
On va peut-être passer, hein, c'est donc moi ce que je voulais vous montrer aussi, c'est effectivement nos menus. Hein. Donc on vient de voir tout ce qui concernait mon bureau, on voit qu'il y a encore des choses à faire. Donc on a des onglets effectivement là en haut de l'écran, donc qui permettent à la fois d'avoir donc, les informations effectivement. Donc ça, c'est la reprise, en gros, de la partie information de notre site web actuel avec la présentation du service commun de la documentation et des différents sites disciplinaires donc, du SCD. Donc à côté, vous avez l'onglet recherche. Alors là, c'est important puisque nous avons travaillé effectivement sur différents types de recherche au sein du portail. Donc la recherche simple hein, qui reprend effectivement la recherche qu'on connaît dans un OPAC classique.
On voit tout c'est ici en fait. Hein.
Oui, on voit pas bien. Ici, donc on ne va pas faire de recherche simple. Hein. Donc la recherche avancée, qui là aussi donc effectivement est reprise, je dirais, des recherches que nous avions dans l'OPAC au préalable. Et ensuite, donc, on a d'autres types de recherches qui, elles, donc, sont apparues avec le portail documentaire. Donc, la recherche thématique qui permet effectivement donc, d'avoir une recherche basée donc, sur les indices du web. Donc, on a effectivement déterminé des catégories au sein des grands domaines donc, de la classification maximale du web. En établissant des sélections d'indices qui correspondaient à des fonds thématiques liés au domaine d'enseignement ou de recherche. Donc, par exemple, effectivement, la collègue qui s'occupe des lettres a déterminé pour l'instant, hein, puisque nous avons un mois de fonctionnement, ces grandes structures qui correspondent donc à l'enseignement et à la recherche. Et si on clique, par exemple, sur littérature espagnole, on aura donc ensuite...
C'est pas dans le recherche. C'est pas trop opérationnel, en fait, encore ça.
Essayez l'histoire de la littérature.
Là, vous devriez avoir des choses. Mais peut-être qu'ils demandent tout souvent après qu'ils aient la chair.
Bon, il y a vraiment un problème sur le portail cet après-midi.
Ouais.
Donc normalement, lorsque l'on clique effectivement sur littérature espagnole par exemple, va remonter l'ensemble des documents qui correspondent donc à l'indice du web, qui correspondent donc à la littérature espagnole, en tout cas à ceux qu'on a pointés comme étant particulièrement...
Dans
le catalogue uniquement, là, pour la recherche thématique. Donc recherche simple et recherche avancée, par contre c'est une recherche à la fois dans le catalogue de la bibliothèque, dans la base de GED, et également donc dans les bases de données que nous pourrons lui pointer comme étant des bases de données généralistes, donc avec des connecteurs qui vont être mis en place. Par contre là, pour la recherche thématique, on a considéré pour l'instant que l'important était de faire remonter les documents du catalogue, donc on n'a pas intégré d'autres ressources. Donc ensuite, autre type de recherche, c'est les recherches donc par... Oui, allez-y.
Est-ce que vous n'affichez pas les indices du web correspondant à vos grandes divisions?
Non.
Est-ce que c'est parce qu'on est dans les grandes divisions, parce que ça ne marche pas cet après-midi, ou est-ce que c'est un choix?
Non, c'est un choix. Pour une fois, c'est pas parce que ça ne marche pas cet après-midi. Mais effectivement, c'est un choix que l'on a fait en collégialité, dans la mesure où la volonté que nous avions, c'était effectivement de limiter au maximum la difficulté d'accès aux différents modes de recherche. Donc peut-être qu'on changera d'avis à terme, hein, mais pour l'instant, il nous a semblé que le fait d'utiliser en quelque sorte des intitulés qui correspondaient finalement à ce que les étudiants pouvaient avoir comme intitulés dans le cadre de leur domaine d'enseignement ou de recherche, sans leur ajouter finalement les données qui correspondaient précisément à notre propre domaine bibliothéco-économique, était préférable. Il faut savoir aussi que nous avons effectivement pour l'instant lancé l'outil sans pouvoir effectuer du tout de formation des usagers autour de l'outil portail documentaire. Donc on a essayé de le lancer avec le plus de convivialité possible en quelque sorte. Mais je ne dis pas qu'à terme, on ne fera pas apparaître éventuellement les individus qui correspondent.
Je peux me permettre deux instants que j'ai réussi à me reloguer sur la recherche à laquelle je m'étais abonnée. Donc en fait, c'est par ici. Quand vous faites une recherche, quelle qu'elle soit, vous avez la possibilité avec ce portail, qui est une chose quand même assez intéressante, de vous abonner à la recherche. Donc vous abonnez à cette recherche. Donc vous voyez, le type de recherche apparaît et votre adresse email apparaît aussi sur laquelle quand vous validez. Chaque jour, selon la nouveauté, les nouveautés qui sont arrivées dans la bibliothèque, au quotidien ou selon mensuellement, comme vous le souhaitez, vous pouvez créer, vous abonner à une recherche suivie. Donc ça, c'est quand même quelque chose, je l'annule puisque moi, je n'avais pas l'idée.
Donc là, effectivement, ça marche puisque vous avez eu
effectivement
la recherche suivie sur la littérature africaine. Ensuite, il y a évidemment les nouveautés. Vous pouvez avoir également l'historique de vos recherches. Donc, retrouver finalement les recherches que vous avez effectuées section par section. Et les ressources externes, donc là, c'est nos bases de données en ligne. En sachant que pour l'instant, donc, Archimède est en train de développer les connecteurs avec la plupart d'entre elles. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore vous montrer la recherche fédérée sur les bases de données en ligne, mais elle est évidemment prévue. Donc ensuite, vous avez effectivement les services aux usagers. Alors les services aux usagers, là aussi, donc, c'est un apport par rapport à ce qu'on proposait à notre public auparavant, donc la possibilité d'effectuer des suggestions d'achat en ligne, donc à partir effectivement du portail documentaire, il y a la possibilité évidemment d'envoyer, de déposer une suggestion d'achat qui sera ensuite répartie en fonction de notre paramétrage aux différentes personnes qui sont chargées des acquisitions. Donc effectivement là on demande aux personnes de remplir les différents champs qui correspondent donc à leur demande. risque. Donc ensuite, également la possibilité par le parti de demander donc un prêt entre bibliothèques en ligne également, donc à partir donc, d'une interconnexion avec le SUDOC, possibilité de récupérer la notice qui correspond à la demande de prêt entre bibliothèques et de l'envoyer là aussi, enfin de la déposer directement en ligne. Elle sera ensuite envoyée aux personnes qui sont responsables du PED dans les différents sites. Le prêt navette, puisque je vous ai dit qu'on était sur 5 sites distants d'une soixantaine de kilomètres chacun, donc on a notre petit PEB personnel qui s'appelle le prêt navette, qui permet l'échange des documents entre les sites. La question bibliothécaire, donc qui correspond là au service de renseignement en ligne, donc possibilité de poser une question, de cliquer dessus. Donc effectivement, on a essayé de définir un petit peu, de cadrer les questions auxquelles on répondra et celles auxquelles on ne répondra pas forcément. Donc question d'ordre documentaire, ça reste évidemment très large. Donc on a essayé de préciser qu'il fallait que ça soit lié à une recherche ou à un dossier documentaire. Sachant que effectivement, on leur rappelle que pour une question concernant l'organisation ou le portail, ils peuvent poser une question au webmestre. Donc ils peuvent ensuite cliquer sur poser une question au webmestre. Que pour avoir un renseignement également sur l'organisation de chaque bibliothèque, ils peuvent consulter l'annuaire du STD qui leur donne donc les références avec les emails de chaque personne, des responsables et de l'ensemble de l'équipe de chaque site de la bibliothèque. Voilà, donc ça c'est tous nos collègues. Et également, donc, s'ils souhaitent ensuite poser quand même leurs questions, la possibilité éventuelle de la poster à ce niveau-là. C'est pas très grave. Donc effectivement, le dernier service aux usagers, c'était la réservation en ligne également, hein, puisqu'il y a l'interconnexion aussi avec le système intégré de gestion de bibliothèque, et donc possibilité de, oh, c'est joli, de faire effectivement une demande de réservation en ligne. Donc rapidement, je voulais aussi vous faire un petit état des usages, alors pas chez nous, que ça fait un mois que c'est ouvert, mais dans une université sœur de la région et qui correspond un peu à la nôtre, qui est l'université de Valenciennes, qui a quand même effectivement un profil plus scientifique que la nôtre, mais qui a à peu près le même nombre d'étudiants et qui donc a mis en place son portail documentaire en ligne depuis donc un an. Donc ils ont mis en place une enquête pour voir comment était utilisé le portail documentaire et quels étaient les indices de satisfaction et d'usage. Alors là, on prend un petit coup derrière la tête, parce que l'enquête de satisfaction fait apparaître que 90% des usages ne concernent de toute manière que l'OPAC, donc pas du tout la recherche fédérée, qui n'est quasiment jamais utilisée. Pourtant, ils avaient mis en place donc effectivement des ressources correspondant aux étudiants de premier cycle, hein, qui sont chez eux comme chez nous la majorité de nos étudiants. Mais manifestement, pour l'instant, malgré des formations systématiques à Valenciennes et une valorisation donc effectuée dans le cadre de la bibliothèque, pas d'utilisation de la recherche fédérée actuellement. L'autre élément qui les a surpris et qui donne à réfléchir aussi, c'est le fait que les étudiants montrent une très très forte réticence à l'identification. Donc, au sein des locaux de la bibliothèque, il y a 99% des connexions qui se sont faites de manière anonyme. Seul 1% des usagers a pensé ou a souhaité ou a accepté de s'identifier. Et même à distance, donc 80% des connexions à distance ont également eu lieu de manière anonyme. Donc là, il y a eu uniquement 20% des connexions qui se sont faites de manière identifiée, en sachant qu'a priori, enfin, eux, en tout cas, l'analyse en étant essentiellement l'objectif de ces connexions identifiées était la consultation du compte lecteur, puisque la consultation du compte lecteur qui dit « vous avez des prêts en retard » ne peut se faire qu'à travers la connexion identifiée. Enfin, donc la plupart des recherches documentaires se fait chez eux par un petit encart qui s'appelle « Recherche Express ». Donc, il y a une ligne, on clique et on a des réponses. Tout le reste, donc, qu'on vient de vous montrer, pour eux, chez eux, ça n'est pas utilisé. Donc, je crois que ça nous remet quand même, je dirais, en face à la réalité des usages, à savoir que, bah, manifestement, il y a encore une forte réflexion à mener en dehors des outils techniques dont on voit qu'ils ne fonctionnent pas toujours, mais bon, a priori, que même quand ils fonctionnent très bien, puisque à Valenciennes, ça fonctionne certainement beaucoup mieux qu'à Artois, donc il y a certainement une réflexion sur les contenus que l'on doit offrir donc, à travers ces portails documentaires et sur la médiation. Donc beaucoup de formation à Valenciennes, mais malheureusement encore, pas d'intégration donc, dans les habitudes des étudiants donc, de ces outils-là. Sachant que de notre côté, on a essayé d'éviter, je dirais, tous les obstacles à l'utilisation de ce portail documentaire, en essayant de le rendre le plus convivial possible. Enfin bon, là, ça ne se voit pas, je vois pas, puisque ça ne fonctionne pas. Mais effectivement, on a essayé aussi de développer l'aide en ligne, hein, si vous pouvez cliquer sur... oui, là aussi, mais là-haut, c'est pas grave. Et également donc en essayant d'implanter, donc là il y a une collègue qui a effectivement donc travaillé d'arrache-pied depuis 2 mois sur l'aide en ligne, donc elle a créé toutes ses rubriques. Derrière il y a effectivement une explication hein, pour chaque rubrique. On ne va pas regarder la totalité, mais vous pouvez en afficher un si vous voulez. Hein. Et on a essayé d'implanter des postes informatiques partout où il y a des livres pour essayer de banaliser un petit peu l'outil et de l'ancrer en fait dans le quotidien des étudiants. Mais bon, on attendra de voir notre propre enquête de satisfaction au bout d'un an. Je pense qu'on a toutes les chances du monde d'avoir les mêmes résultats qu'à Valenciennes. Donc il y a encore un gros travail à effectuer. Voilà, désolée de l'imperfection technique, mais c'était prévisible. Merci.
Quelques questions, voire que je vais vous poser pendant l'intervention. Je ne comprends pas actuellement ce
qui en réalité nous n'avons plus l'opaque. Hein, la réalité, en réalité, c'est la disparition de l'opaque en français. Donc il n'est pas paramétré, on n'en a plus. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche dans le catalogue ne peut désormais plus passer qu'à travers le portail documentaire. On a fait ce choix-là aussi, qui peut être réversible d'ailleurs, de ne pas proposer en parallèle au portail documentaire des possibilités de connexion à l'OPAC uniquement. Parce qu'on avait effectivement réfléchi, hein. Je ne suis pas sûre qu'on ait eu raison, peut-être qu'on reviendra en arrière, si on se rend compte que l'accès au portail n'est pas si évident que ça et que ça gêne vraiment les étudiants, il y a toujours la possibilité de revenir finalement à l'OPAC natif ensuite. Oui.
Par exemple, un étudiant par rapport à un chercheur.
Donc quand vous dites pondération des résultats, c'est-à-dire filtrage en quelque sorte.
Oui, par exemple, chercheur, il
plus des articles de recherche, oui. Un ouvrage de base et un instrument pour.
Alors, ce qui est prévu, c'est effectivement la mise en place donc, de l'accès aux ressources sur profil de l'usager. C'est-à-dire que l'étudiant en premier cycle pourra avoir accès à un certain nombre de ressources externes. Il s'est identifié, hein, bien évidemment. Par contre, l'étudiant avancé ou l'enseignant-chercheur aura accès à une liste beaucoup plus importante de ressources externes possibles. Et dans la recherche fédérée, le profil également intervient puisque la recherche fédérée est paramétrable pour chaque profil d'usager. Donc on peut très bien effectivement dire pour l'usager, on va dire L1 en lettres, la recherche fédérée va correspondre à 3 bases de données. Pour l'étudiant en doctorat en sciences, elle correspondra, enfin, elle ira chercher l'information sur 15 bases de données différentes qui ne seraient évidemment pas les mêmes.
Un document, le
temps d'arriver dans les résultats. En pertinence, voilà. A priori, pour l'instant, ça n'existe pas dans les fonctionnalités. On peut faire des tri, effectivement, mais faire apparaître les listes par pertinence, pour l'instant, ça n'existe pas encore dans le logiciel.
Pour une question, lorsque vous avez parlé du service aux usagers, Il m'a semblé voir l'historique de recherche.
Oui.
On n'a pas parlé. Est-ce que c'est la même chose que quand tu es dans le dossier personnel?
Bah, l'historique des recherches, en réalité, c'est un rappel de l'ensemble des recherches qui ont pu être effectuées, mais qui n'ont pas forcément été sur lesquelles on n'a pas pris un abonnement pour avoir une recherche suivie. C'est dans le panier, quand on a panier des recherches, c'est les recherches qu'on enregistre et qu'on souhaite donc garder comme des recherches suivies, c'est-à-dire être mises au courant à chaque, enfin, périodiquement, en fonction du choix qu'on fait tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, des nouveautés qui ont pu être intégrées dans le fond pour cette recherche. Là, c'est l'historique de l'ensemble des recherches sur une période donnée, quel que soit le résultat obtenu et quel que soit l'intérêt finalement qu'on lui a fait ensuite. Oui.
J'ai cru voir un cheval
sur
une planche de spécialité.
Oui. On n'a pas regardé. Pour nous, recherche spécialisée, donc ça correspond effectivement à un type de recherche par feuilletage, à la fois par support. Donc on a notamment les cartes, les thèses électroniques, parce que j'ai pas eu le temps de vous parler du circuit de dépôt des thèses électroniques, mais il y a la mise en œuvre d'un circuit de dépôt entièrement en ligne des thèses par les doctorants, les mémoires de maîtrise, les ressources de la recherche, donc communication préprise. Et puis éventuellement, on pourra effectivement aussi avoir des recherches ensuite par grand domaine en quelque sorte. Donc moins thématique, moins précis que la recherche thématique, mais qui serait spécialisée par le type de ressources qu'on leur attaquera.
On va passer l'heure. Merci Corinne. Merci Sylvie.